parce que c'est surtout ça qu'on cible, que je cible dans l'alimentation anti-inflammatoire, c'est de calmer l'inflammation, d'enrichir, de nourrir mon corps avec ce dont il a besoin. Donc plus d'antioxydants, il faut plus de protéines, il faut plus, en fait, de vitamines, il faut plus de tout parce qu'il est épuisé. Et donc mon système immunitaire a pu se rééquilibrer avec le temps. C'est pas encore gagné, car ce sera jamais gagné, en fait, c'est toute la vie, mais ça va tellement mieux.
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti! De plus en plus de personnes sont touchées par l'inflammation chronique, un état souvent silencieux mais aux répercussions profondes sur la santé, douleurs articulaires, troubles digestifs, fatigue persistante, déséquilibres hormonaux, voire maladies auto-immunes. Cette inflammation est souvent liée à des pathologies comme le diabète, l'obésité, les rhumatismes ou encore l'endométriose. Face à ce constat, l'alimentation anti-inflammatoire s'impose peu à peu comme un levier complémentaire reconnu mais aussi soutenu à la fois par des équipes médicales et des associations de patients dans le cas de l'eczéma et de l'arthrite par exemple. Sans remplacer les traitements médicaux, l'alimentation peut potentiellement jouer un rôle clé pour moduler cette inflammation de fond. Mais alors concrètement, qui doit sauter le pas ? Comment cela se traduit-il dans notre assiette ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Élise Guilmore. Bonjour Élise.
Bonjour Noémie, je suis très contente d'être là aujourd'hui.
Je suis enchantée de t'avoir à Berlin. Tu es ingénieure agroalimentaire. Tu as été diagnostiquée de troubles thyroïdiens et d'endométriose. On te connaît sur ton compte Instagram où tu dévoiles tes conseils et tes recettes. Mais aujourd'hui, tu ajoutes une flèche à ton arc parce que maintenant, on peut officiellement dire que tu es autrice. Tu as
Tout
ton
à fait.
premier livre qui sort bientôt.
C'est ça, quasiment en même temps que ce podcast qui sort. Donc, à croire que les étoiles s'alignent
Oui,
pour ce podcast.
félicitations.
Merci beaucoup. Oui, je suis très contente de à la fois la sortie de ce livre, mais aussi l'impact que peut avoir mon compte sur les réseaux sociaux pour déjà m'aider personnellement, de partager tout ça, de donner une voix à ce que je ressens et aussi montrer aux personnes qu'elles ne sont pas toutes seules.
Ouais, que ça aide aussi d'autres personnes à ouvrir des portes, à s'inspirer peut-être de ton parcours. Et du coup, avec ce livre, est-ce que c'est 100% des recettes anti-inflammatoires? Est-ce que aussi c'est validé par la science?
Oui, heureusement, j'ai vraiment voulu faire ce parcours de toute façon accompagné par déjà le médecin qui me suit de base depuis longtemps, qui m'a toujours soutenue. Et en fait, donc ce livre, oui, est 100% recettes anti-inflammatoires, mais surtout des recettes qui soient faciles à faire, parce que personnellement, j'aime cuisiner, mais pas non plus des heures non plus, et aussi gourmandes. Et ça, on en parlera tout à l'heure, mais pour moi, c'est un point essentiel pour casser les codes de l'anti-inflammatoire. Je pense que dans l'imaginaire de chacun, on pense souvent à un régime, à de la verdure, c'est pas bon,
Restrictif.
restrictif et surtout pas appétissant.
Ouais.
Et moi, c'est tout ce que je veux changer sur ça, donc à la fois mes réseaux sociaux, mais aussi le livre. Donc c'est une continuité qu'on peut retrouver.
Et ouais, changer ses habitudes alimentaires, je l'ai fait aussi. C'est compliqué au début parce qu'on c'est vraiment tous les jours, 3 fois par jour, où on doit changer ce qu'on aurait choisi, ce qu'on aurait cuisiné, comment on l'aurait cuisiné. C'est sûr qu'on recherche toujours de l'inspiration et des conseils pour pouvoir s'améliorer. Et tu disais même dans ton livre que c'était validé par un médecin nutritionniste.
Oui, en fait, c'est un médecin qui a accompagné des personnes, notamment dans la perte de poids ou les problèmes liés donc à des maladies auto-immunes, notamment le diabète, en l'occurrence, en plus de l'obésité. Ça va, en général, ça peut aller avec. Et surtout, c'est qu'elle elle a une approche qui est avec l'alimentation, qu'on peut donner l'opportunité à son corps d'aller mieux. Et c'est important pour moi de trouver du coup quelqu'un qui a un peu la même façon de penser que moi. Et de toute façon, après, par mon parcours du coup agroalimentaire, j'ai toujours été attirée par l'alimentation, comprendre ce qu'il y a dedans et jouer avec les ingrédients, tout ça. Et bah, aujourd'hui, je suis donc maintenant sur les réseaux, c'est à plein temps pour le coup.
Ouais.
Et j'ai une très grande passion pour le bien-être, la santé. C'est pour ça que là aujourd'hui, je suis très contente de parler. Et la mission principale, c'est faire de la prévention. Voilà, pas attendre qu'on soit malade pour faire des changements. Ça m'est arrivé, hein, j'ai attendu de l'être. Mais aujourd'hui, voilà, c'est donner une voix, donner de l'espoir que c'est possible et aussi être heureuse en fait, hein. C'est un peu l'objectif.
Et du coup, là, c'est la consécration de partager tes vidéos et tes recettes finalement avec le livre et une consécration aussi pour ta passion pour la cuisine au final.
C'est ça. Alors, c'était un gros challenge, honnêtement, parce que le timing était intense. Mais justement, ça m'a poussée à prendre, à aller à l'essentiel, en fait. Parce que forcément, quand on écrit un livre, on pourrait y passer des années à toujours reformuler, rechanger, etc. Et en fait, je prends ce qui fonctionne aussi. C'est-à-dire que par mes vidéos que j'ai partagées avant, ça m'a permis de voir aussi ce qui plaisait. Après, c'est un livre qui est ce que moi, j'aime aussi personnellement, hein. Mais je fais un petit peu ce mélange entre ce que les gens ont envie et ce que moi j'ai envie de partager.
Nice. Et du coup, c'est quoi la recette que tu cuisines le plus régulièrement le dimanche?
Alors c'est rigolo que tu me poses cette question parce que une recette en fait qu'on retrouve dans le livre mais qui a cartonné sur mes réseaux sociaux, c'est en fait un cake salé que je mange le matin. Donc on pourrait
Ah
trouver ça
oui.
bizarre, mais moi j'ai toujours mangé le petit déjeuner sucré. Et en fait, je bannis pas le sucre. Ça aussi, on en parlera, mais le mot bannir, tout ça, je ne l'utilise pas. C'est hyper important
Au
pour hacker le
mental, oui.
cerveau, ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai voulu garder le goûter, un petit goûter sucré, mais du coup, il fallait que je change mon petit déjeuner et donc le transformer en un petit déjeuner salé qui apporte des protéines et surtout qui donne envie le matin. Et donc, j'ai commencé à partager des recettes de cake. J'ai fait plein de variantes. Avec différents. Souvent, par exemple, ça peut être avec des noix de pécan ou des noisettes. Après, on peut retrouver de la feta ou alors on peut retrouver, par exemple, du tofu soyeux, ceux qui n'en consomment pas. Vraiment, j'ai fait plein, plein de variantes. Et surtout, c'est qu'il y a toujours un légume caché. Ça, c'est mon petit secret pour avoir des fibres. Et donc, ce cake, je le fais une fois par semaine. Ça me permet de faire 7 parts. En fait, donc, je les coupe, je les congèle.
Ah
Et
oui.
tous les matins, 30 secondes, hop, je prends ma petite part, donc je la fais décongeler, donc soit à la poêle, au grille-pain ou au micro-ondes, si on a ça sous la main, même s'il faudrait éviter. Et c'est parfait, quoi. Un petit thé, et ma journée peut commencer. En fait, j'ai
Hyper
une charge
pratique,
mentale en moins.
ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand on se dit petit déjeuner salé, tout de suite, faut sortir la poêle, la
On pense
casserole,
souvent aux œufs
etc.
brouillés. Alors,
Voilà.
c'est très bon, hein, mais les œufs brouillés, le machin, le pain, le truc. Et en fait, je pense aussi à toutes les mamans et aux papas qui me suivent, parce que moi, j'ai bientôt 30 ans, et il y a beaucoup de personnes qui ont une famille et qui aimeraient manger, je ne vais pas dire mieux, mais en fait, manger mieux pour son corps. Et ça, c'est une solution. Et donc, on la retrouvera dans le livre. Et je pense que c'est un petit best-seller, parce que pour le coup. Tout le monde l'adore et à chaque fois je reçois plein de photos. Donc n'hésitez pas à envoyer vos photos si vous la faites. J'adore le repartager.
Ben, en tout cas, si tu as pu intégrer ça facilement dans ta routine tous les dimanches, je prendrai note. Le titre de ce podcast, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Alors j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur ce que c'est l'inflammation. En soi, l'inflammation, c'est un processus naturel de défense du corps qui est utile, qui est ponctuel quand il s'agit de guérir une blessure ou de combattre une infection. Mais lorsqu'elle devient chronique, elle s'installe en silence et agit comme un feu de fond, souvent invisible et même délétère à long terme. Comme j'ai déjà mentionné en introduction, aujourd'hui, elle est reconnue comme un facteur commun à de nombreuses maladies, comme l'obésité, le diabète, voilà. Mais justement, toi, Élise, tu vis avec une maladie thyroïdienne et de l'endométriose. Quels ont été pour toi les premiers signes d'une inflammation chronique? Comment, en fait, ton corps, il t'a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas?
Alors déjà, c'est hyper important de se dire que c'est bien un message du corps qui nous parle. Et en fait, quand on dit que les symptômes sont invisibles, en fait, ils existent, mais on les banalise. Donc en fait, tout ce qui va être lié au problème, souvent, ça peut être déjà commencer par l'estomac, l'intestin, donc des reflux. Moi, j'ai eu beaucoup de reflux gastriques plus jeune. Bon, on m'a dit, on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, j'ai trouvé des solutions. C'est pas juste, on fait rien, on attend. Problème, voilà, donc de ballonnement, digestif, même depuis le lycée. Et en fait, j'ai banalisé ça complètement. Ensuite, avec les règles, donc les menstruations, bah, le SPM, donc syndrome prémenstruel, qui était handicapant, mais bon, on se dit, c'est comme ça, tout le monde a mal un peu, tout le monde a des douleurs, bon, bah, je pleure avant les règles, c'est normal. Donc en fait, c'est des signaux qui sont invisibles, mais en fait, non, ils sont bien là, et on les banalise. Et à un moment donné, bah, c'est la cocotte, en fait, elle, à un
Elle
moment, ça
explose,
explose,
ouais.
voilà, c'est ça. Et c'est souvent comme ça que se passent les maladies qui se déclenchent. Donc des fois, ça peut être aigu, donc d'un coup, parce qu'il y a un événement particulier ou une infection. Sinon, ça peut être voilà, un peu sur la durée. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Toute ma vie, honnêtement, ça allait bien. Voilà, en fait, je
Soi-disant, voilà,
banalise
c'est
encore une
ça.
fois. Non, non, ça allait pas.
De se rendre pas compte qu'on a une dysbiose, que se rendre pas compte
Non.
qu'on a des
Ah, mais
problèmes
le
parce
mot,
que...
je le connaissais même pas. C'était lunaire pour moi, en fait. Je me dis, bah non, c'est pas ça. Et en fait, à un moment donné, donc déjà, quand il y a eu la période du Covid, je parle pas forcément de tomber malade, mais en fait, c'était un moment qui était très stressant pour tout le monde. Et c'est à partir de là qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Donc, je dormais vraiment pas bien. J'étais très stressée. J'avais une infection, donc j'avais pris, en fait, beaucoup d'antibiotiques. Donc, alors là, la flore, c'était cata.
T'avais pas pris de probiotiques, prébiotiques derrière?
Mais en fait, je pense que c'est.
C'était trop long.
Ouais, c'était trop long. Et en fait, tout ça cumulé. Et en fait, à ce moment-là, j'avais, pour faire simple, j'avais prévu de partir un an à l'étranger. Et donc, juste avant, je fais une analyse de sang complète.
C'était quand ça?
C'était en 2022. Donc là, ça fait il y a trois. Bon, non, 4 ans, je ne sais plus. C'était début 2022, en fait. Donc, il y a 3 ans. Et donc, je fais une analyse de sang qui était énorme. Et en fait, je n'ai pas regardé. Et en fait, c'était déjà écrit dessus que j'avais des soucis. Donc, anémie et la TSH. Donc, TSH, c'est au niveau
L'hormone de la
thyroïdien.
thyroïde, ouais.
En fait, voilà, qui est déclenché au niveau de l'hypophyse et qui vient dire à la thyroïde s'il faut plus ou moins produire d'hormones thyroïdiennes.
Mais c'était comment?
Ben, elle était à zéro.
Ah, super.
Et en fait, bon, ben, on ne m'a pas forcément mentionné ça. Donc, je suis partie en vacances. Et donc là, les premiers signaux, pour faire simple, c'est que j'avais les tremblements. J'ai pensé à Parkinson, mais en fait, non. Parce que là, c'était quand j'étais en contraction. Donc c'était assez bizarre, très essoufflée. Donc j'ai mis ça sur le dos du manque d'activité sportive.
Plus le
Et
fait que tu faisais des activités sur place.
oui, c'est ça. Donc je me dis, bon, bah, c'est la fatigue. Et en fait, j'ai commencé ensuite à avoir de la nausée. Très vite, j'ai plus mes règles. Donc nausée. Plus de règles, je me dis je suis enceinte. donc j'ai fait des tests, c'est pas ça. Bon, ben, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai perdu du poids. J'ai perdu plus de 20 kilos par rapport au poids que tu me vois là. Donc c'était très compliqué, mais j'avais toujours de l'énergie en fait. J'étais hyper énergique,
Tu puisais dans tes ressources.
complètement. Donc je perdais mes cheveux par poignée. C'était là aujourd'hui, je suis très fière de mes cheveux, mais c'était vraiment une catastrophe. Et donc beaucoup de sudation, donc de transpiration excessive. Je pouvais boire 3 litres d'eau par jour. Et un jour, je prends une photo avec mon frère, et là, je vois le goitre. Donc la fameuse boule à ce niveau-là que j'ai vue dans mes études. Et là, j'ai compris. Ok, là, il y a quelque chose au niveau de la thyroïde. Et effectivement, en rentrant, mes analyses ont confirmé que j'avais bien un souci, même si c'était déjà un an
Déjà
avant.
prévu, enfin c'est déjà marqué.
Oui. Donc il faut bien lire ces analyses de sang. Et donc à ce moment-là, eh ben, a commencé la phase de traitement. Donc j'ai en fait donc de l'hyperthyroïdie, de basse dose ou grave, selon les pays, on va utiliser tel ou tel mot. Et à ce moment-là, l'inflammation, je ne connaissais pas encore. Hein. C'était pas, on n'en parlait pas. Et j'ai aussi la maladie d'Hashimoto. Donc j'ai les deux maladies, on appelle ça un chevauchement, et c'est très répandu.
Plus répandu que ce qu'on pense.
Oui, c'est ça. Mais ce qui fait qu'il faut être plus attentif parce que dans notre vie, on peut passer de l'un à l'autre. Donc voilà.
Il y en a une qui prend plus le dessus que l'autre à certains moments.
C'est ça. Donc moi, c'était l'hyperthyroïdie, donc tous les symptômes. Donc le traitement a très bien fonctionné, même trop. Donc je
Ah,
suis passée en
ça veut
huit.
dire quoi trop?
En fait, il était trop dosé. J'ai trop vite réagi. Et donc je suis passée en hypothyroïdie. Parce que le but, c'est le médicament de calmer l'activité de la thyroïde. Je me suis retrouvée en fait avec une thyroïde qui ne travaille plus.
Ah oui.
Donc le métabolisme ralentit. Et donc là, je peux comprendre certaines femmes qui ont l'hypothyroïdie, donc prise de poids, gonflement. Surtout, c'est la rétention d'eau, hein, d'ailleurs, la prise de poids. Donc tout l'inverse. Donc ça a été très très dur parce que j'étais seule. J'avais personne dans ma famille, à part ma grand-mère qui a 95 ans, qui a la maladie de basse d'eau. Mais à part
Oui,
elle.
tu pouvais pas vraiment regarder d'exemple ou de modèle pour savoir quoi faire à ce
C'est
moment-là,
ça.
quoi.
Et je pense qu'il y avait aussi du déni, en fait. Je n'acceptais pas d'être malade. Je voulais vite m'en débarrasser. Et j'étais en colère. Pourquoi moi, je fume pas, bon, je bois pas, je bois en vacances et tout. Mais j'étais beaucoup, beaucoup de colère. Et ça, c'est normal de passer par là. Et en fait, au bout d'un an et demi, j'ai eu fait une rechute. Ça arrive. C'est-à-dire
Ça arrive
que.
par quoi?
En fait, on ne peut pas prendre le traitement toute la vie, comme ça attaque le foie, car c'est pas bon pour le foie. Donc, c'est un traitement qu'on prend 18 mois, et ensuite, on voit. Donc, on peut reprendre le traitement, mais il faut faire. Là,
Faut
il
faire
faut.
des pauses.
C'est ça. Et puis, il faut ben, agir. Et là, c'est ce que j'ai fait. Et donc, on vient à l'alimentation anti-inflammatoire, puisque j'en ai entendu parler. Je pense que c'est par quelqu'un qui a la maladie, comme moi, 10 ans, qui a 10 ans d'expérience de la maladie, qui a toujours sa thyroïde, qui prend plus le médicament aujourd'hui et qui est en bonne santé. Et je me suis dit, ah, qu'est-ce
Elle a
qu'elle a
fait
fait?
quoi?
Elle a fait quoi? Mais ce n'était pas anti-inflammatoire encore. Elle m'a parlé de ce qu'elle avait fait comme changement alimentaire, au niveau du sport, au niveau de l'environnement, dans son environnement, pardon, et le stress. Et ensuite, j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux, et c'est en fait un mouvement. Je ne vais pas dire un mouvement, mais en fait, c'est venu surtout des anglophones qui sont toujours un peu en avance sur nous et qui ont parlé de donc anti-inflammatory protocol, qui est un protocole très strict, par contre. Et on en parlera. Moi, j'ai voulu le faire un peu autrement, à ma manière, et aujourd'hui, qui a bien fonctionné. Et pour l'endométriose, ça a été détecté très récemment. Donc, par rapport à la sortie du podcast, c'était il y a 3 mois, et grâce à ma communauté.
C'est elles qui t'ont averti, en fait, qu'il y aurait potentiellement de l'endométriose en plus.
Complètement. En fait, sur mes réseaux sociaux, je partage vraiment mon quotidien, ce que je ressens, quand ça va bien, quand ça va pas. C'est un témoignage, en fait. Je documente ma vie sur ça, et sans tabou. On parle de tout. Et donc, je commence à parler de mes ressentis. Ça, c'est bizarre. J'ai vraiment mal au sein avant mes règles. J'ai très faim. Tout le SPM, en fait. Et j'ai commencé à parler, parce qu'il n'y a pas de tabou ici, de douleurs au niveau des fesses, principalement au niveau du rectum. Et je me suis dit, c'est hyper bizarre ce truc. Je ne sais
Pourquoi là?
pas ce que c'est. Et ça arrive au moment des règles ou selon ma digestion. Et donc, je fais une story un jour, j'en parle. Et là, je reçois plus de 70 messages. Et les gens me disent, mais moi aussi j'ai ça, mais j'ai l'endométriose. Peut-être que tu devrais faire des analyses parce que c'est pas normal.
Du coup, t'as fait quoi?
Alors j'ai vu avec ma sage-femme pour avoir un rendez-vous avec faire une échographie et un IRM. Il faut vraiment faire les deux parce que l'échographie a rien détecté. Après, ça permet l'échographie de voir s'il y a des kystes ou s'il y a d'autres problèmes. Et l'IRM a montré que j'avais de l'endométriose au niveau de l'ovaire gauche. Donc là, je vais voir avec ma gynéco comment ça se passe, est-ce qu'il faut opérer. J'ai pas envie de reprendre une contraception hormonale.
Oui, pour faire la pilule en continu, c'est ça qui recommande?
En fait, c'est une des options de reprendre une contraception hormonale parce que ça permet en fait d'éviter d'avoir les règles et donc d'éviter que les cellules, donc avec l'endométriose, puissent créer en fait les règles et donc avoir des douleurs. C'est ce qui se passe. Donc pour moi, là aujourd'hui, j'ai retiré mon stérilet au cuivre. Ça m'a changé la vie. Mais vraiment. Donc merci. Parce que...
Donc, aucune contraception courante qu'on a
non.
l'habitude de
À
voir.
part le préservatif,
OK.
ça j'utilise, parce que oui, je suis en couple du coup,
Ouais.
et peu importe, même si on n'est pas en couple, mais et je fais donc la symptothermie, mais pas, je suis vraiment au début, hein, donc
Ouais.
je découvre ça, mais j'étudie beaucoup mes symptômes et j'ai une application qui me permet de suivre selon ce que je ressens et pour détecter à peu près la période ovulatoire. Et là, je mets le préservatif sur plusieurs jours. Ça
Bon,
protège quand
en tout
même.
cas, si vous voulez savoir un peu plus sur la symptothermie, venez voir notre podcast là-dessus. En tout cas, merci de partager tout ça parce que c'est des choses qui sont vraiment intimes, vraiment personnelles, mais vraiment utiles aussi parce qu'on n'en parle pas forcément entre amis, ce genre de choses, à moins que vraiment tu sois vraiment dans le mal et du coup on vienne un peu te réconforter aussi, mais c'est dur de réconforter quelqu'un quand on n'a pas de solution, on n'a pas vécu ça. Donc c'est bien de trouver ces personnes-là pour répondre à ses besoins.
Et en plus, je pense que si tu t'amuses, là, c'est pas vraiment s'amuser, mais tu vas en soirée et tu parles à quelqu'un de thyroïde, de problèmes de peau,
Ah ouais.
digestif, tu vas vite te rendre compte qu'il y a tout le monde qui a forcément quelque chose.
Ouais.
Et souvent, moi, j'en parle assez ouvertement. Et là, les gens commencent à dire, ah, mais moi aussi, j'ai ça. Ou alors, j'ai ces symptômes. Je ne suis pas encore diagnostiquée, mais j'ai ces symptômes. Et effectivement, pour reboucler sur l'inflammation, c'est que ces maladies qui apparaissent, donc auto-immunes, chroniques, inflammatoires, c'est qu'il y a bien une origine. Voilà, c'est pas le hasard, juste bouf, pas de chance. C'est, en tout cas, moi, je crois au fait qu'il y ait une origine, ou plusieurs origines souvent, et qu'il y ait lié à un terrain inflammatoire qui va stimuler le système immunitaire, puisque c'est une maladie auto-immune, qui, à un moment donné, à force de fatiguer le système immunitaire, à force de l'épuiser aussi, ou alors, le système immunitaire, à un moment donné, il se dérègle, hein, et ça se retourne contre nous.
C'est pas forcément notre faute, mais ça peut
Non.
être aussi juste notre manière de vivre aujourd'hui qui fait que on est un peu plus sujet aux inflammations et qu'il faut vraiment faire attention à plein plein de niveaux, plein de piliers. Fondamentaux dans sa vie. On peut penser par exemple aussi au stress qui a été répété plusieurs fois dans ce podcast qui va venir aussi alimenter cette inflammation.
Complètement. En fait, ça peut être un cercle vicieux comme un cercle vertueux. Et souvent, les gens, ça leur fait peur. Je dis les gens, hein, quand je parle de tout le monde, hein, même moi-même inclus. En fait, de se dire qu'il y a autant d'origines alimentaires, stress, environnement,
Génétique.
génétique aussi. Alors, génétique, du coup, on ne peut pas y faire grand-chose, mais on peut aider le corps, en tout cas. En tout cas, il vaut mieux partir du principe que on peut avoir un terrain génétique. Donc, il faut aider son corps en plus, ça peut faire peur de se dire, ouais, il y a tout ça, il faut que je change. Moi, je le vois autrement, je me dis, s'il y a tout ça, c'est que j'ai plein d'options. J'ai plein de solutions à moi et j'ai toute ma vie pour le découvrir. Parce que ça prend toute la vie, hein, voilà, je préfère le dire, ça prend du temps. Et le stress, il est autant important que l'alimentation, que la qualité du sommeil, que tout ça. Et en fait, chaque pilier, je vois un peu ça comme des piliers, en fait, impact sur l'autre. Donc forcément, si on améliore son alimentation, on va améliorer sa capacité à gérer le stress. J'aime pas trop dire gérer le stress parce que c'est pas des boutons qu'on gère comme ça, mais on comprend son stress. Et je pense qu'il faut pas se voiler la face non plus. Il faut se dire on est stressé et aussi on est émotionnel.
On est des êtres humains.
Voilà. Et souvent, le stress, quand il est trop intense, quand il est chronique, en fait, ça nous. En tout cas, moi, je me rends compte, hein, je l'étudie sur moi-même, c'est que ça me met dans des états émotionnels compliqués, c'est-à-dire la colère. Quand je suis très stressée, je peux être impulsive et être en colère, alors que personne ne m'a énervée de base, hein, mais c'est ma manière de gérer ça. Pleurer, de craquer complètement parce que je suis trop stressée. Voilà, chacun a sa manière de gérer les émotions. Et d'ailleurs, ça va être les prochains sujets que je vais partager sur mon compte, parce que j'ai commencé par l'alimentation. Voilà, c'est palpable, c'est ludique, c'est plus facile pour moi. Le stress, c'est un peu plus abstrait, mais il y a des méthodes, et je vais commencer à en partager un peu plus. Voilà, parler de stress, de cortisol, et d'émotions.
Et surtout, le stress s'est filtré par la thyroïde. La thyroïde, c'est notre filtre des émotions, comme on l'a vu aussi dans d'autres épisodes du podcast et dans d'autres vidéos. Du coup, forcément, ça aura un lien direct avec tes problématiques et avec peut-être ce que d'autres personnes ont déjà. On a aussi, du coup, on a parlé du stress là, pour l'inflammation. On a aussi d'autres choses qui peuvent amener le corps à être inflammé, les allergies, les intolérances alimentaires peut-être, le sport aussi, quand on fait trop de sport, par exemple.
Ou pas assez.
Ou pas assez, oui, ça c'est vrai.
En fait, quand on en fait pas assez, on le stocke. Et comme j'imagine un petit peu comme un liquide, en fait, comme la lymphe, donc qui, elle, stocke les toxines, si on ne bouge pas, elle ne bouge pas non plus. Et donc, elle accumule, et ça se traduit par des gonflements. Donc, il faut bouger pour faire circuler l'énergie. C'est vrai que dans l'alimentation anti-inflammatoire, je me suis inspirée, justement, de plusieurs types d'alimentation et plusieurs philosophies. Il y a l'alimentation inspirée de l'alimentation paléo, qui est plus brute, locale et de saison, mais pas que. Je me suis aussi inspirée de l'Ayurveda, donc tout ce qui va être le pouvoir des condiments, le pouvoir des épices. On va retrouver aussi tout ce qui est, mais ça c'est lié à mon voyage en Indonésie, mais tout ce qui est lié aussi aux énergies, avec les chakras. Il y a aussi cette notion...
Dans l'alimentation ?
En fait, c'est voir ça comme... en tout cas, par exemple, mes problèmes de thyroïde, c'est le cou. Donc, chakra de la gorge. Et dans... Voilà, on fait un petit aparté, mais je trouve ça hyper intéressant. Je me suis dit, c'est vrai que j'ai problème de thyroïde. Quand je suis dans une émotion intense, j'ai la gorge serrée. J'arrive pas à avaler, j'arrive pas. Et une de mes peurs, c'est de manquer d'air. Ou qu'on m'étrangle ou que j'étouffe, en fait. Et je me dis, il y a un truc avec le cou. Là, il y a quelque chose à des... Qu'est-ce qui se passe ? Et justement, le chakra de la gorge... Pardon, le chakra de la gorge qui est bloqué, c'est lié aussi à la communication. Pourtant, je parle, hein, je suis quelqu'un.
L'expression de soi.
Voilà, c'est parler de ce qui va pas, ce qui va, mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et je parle aussi au mot MAUX. Et donc, c'est un peu voilà, cette notion d'énergie qu'il faut. Alors, il n'y a pas que dans l'alimentation, mais il faut s'écouter, quoi. Faut pas être non plus en hyper-contrôle. Donc, voilà, je m'inspire de ces différents types d'alimentation et philosophies qui aujourd'hui constitue mon mode de vie anti-inflammatoire.
Et du coup, quand tu as commencé à faire tes changements, c'était quoi les premières améliorations que tu as vues une fois que tu as changé ton assiette ?
Alors, c'est rigolo parce qu'il y a des changements qui ont été instantanés. Et ça, c'est important de le dire. Il y en a certains, ça va mettre des mois. Ça ne veut pas dire que justement, ça ne marche pas. C'est juste que ça me prend beaucoup de temps. Donc, sur ce qui a fonctionné très vite... ça a été la digestion. Alors, j'ai commencé par, pour faire simple, d'ailleurs, j'ai prévu aussi de proposer un e-book sur la méthode un petit peu que j'ai mis en place et comment j'ai été accompagnée, un petit peu les erreurs et ce qui fonctionne. Dans le livre, on a une petite introduction, mais on n'a pas tout le détail. C'est surtout des recettes. Donc, moi, j'ai commencé par ce qui était facile pour moi et ce par quoi j'étais curieuse, ça a été le gluten.
Ok.
Voilà, je me suis dit, ok, c'est rigolo, gluten, vraiment, je partais de zéro. J'ai été bien accompagnée avec mon médecin fonctionnel aussi. Et donc, j'ai réduit, j'ai découvert plein d'aliments que je ne connaissais pas, le millet.
Pour éviter le gluten, du coup ?
Ouais, c'est ça. Pour le remplacer ou découvrir autre chose. Donc, le millet qui fait penser à de la semoule, bah nickel. L'amarante, après, il faut le cuisiner, il faut bien cuisiner avec des petites épices et tout quand même. Le quinoa, il y a eu aussi, je ne mangeais pas beaucoup de riz avant, donc riz basmati, etc. Et en fait, tout de suite, j'ai commencé à mieux digérer, à mieux dormir. En digérant mieux, je dors mieux. Un peu moins de reflux, mais c'était toujours là, parce que ça prend du temps. C'est pas magique non plus. Ça, c'était mes premiers signaux. Ensuite, ça a été au niveau de la peau, c'est-à-dire meilleure qualité de la peau, moins de gonflement. Alors, avec ma maladie, on a souvent des poches, les yeux gonflés, de l'exophtalmie, donc c'est un œil ou les deux qui ressortent. Donc, j'ai fait beaucoup de drainage, d'automassage, qui ont beaucoup fonctionné. Et ce qui a pris plusieurs mois, par contre, ça a été les cheveux. Parce que voilà, il faut laisser du temps aux cheveux.
Ouais,
hein, voilà.
Pousser.
Vraiment, ça a été le game changer pour moi. Et ensuite, ma maladie. Donc, en fait, les anticorps, parce que c'est surtout ça que je cible dans l'alimentation anti-inflammatoire, c'est de calmer l'inflammation d'enrichir, de nourrir mon corps
Mmh.
avec ce dont il a besoin. Donc plus d'antioxydants, il faut plus de protéines, il lui faut plus, en fait, de vitamines, il faut plus de tout parce qu'il est épuisé. Et donc mon système immunitaire a pu se rééquilibrer avec le temps. C'est pas encore gagné, car ce sera jamais gagné, en fait, c'est toute la vie, mais ça va tellement mieux. Mes anticorps ont diminué pour base d'eau. Et ça a pris à peu près 6 mois. Voilà, faut pas être pressé pour les analyses de sang. Et j'ai plus de carence.
Du tout.
Non, le fer aujourd'hui, après, je
Plus besoin.
plus besoin. Après, j'en consomme dans mon alimentation. Je peux aussi me supplémenter selon les phases de stress ou les phases. Voilà, là, on est plus au soleil, donc il faut protéger plus sa peau. Faut l'aider, hein, pour tout ce qui va être l'oxydation, etc. Donc voilà, ça prend plus de temps, mais ça fonctionne. Donc, faut être patiente.
Oui, c'est pas magique parce qu'on a cuisiné une fois dans la semaine un bon plat healthy.
Après, c'est déjà mieux que rien. Franchement,
Ouais.
c'est chaque petit pas est important et c'est vraiment sur être constant, en fait. Il
La
faut
régularité.
la régularité, il faut s'autoriser à faire des erreurs. Ça fait partie du chemin. J'entends beaucoup les écarts. Oh, je fais un écart. Je me suis fait plaisir. Non.
Tu peux te faire plaisir.
Voilà, moi, j'essaie de me faire plaisir tous les jours dans mon alimentation, et ce qui fait que le mot écart s'écarte. Mais après, voilà, c'est une façon de penser qui prend du temps.
D'ailleurs, en parlant de façon de penser, est-ce que quand tu as commencé à être un peu plus consciente de ce que tu mettais dans ton assiette, ça a changé ton rapport à la nourriture en général? Est-ce que, ouais, est-ce que tu es beaucoup plus consciente de ce que tu mets dans ta bouche?
Alors, c'est rigolo que tu me poses cette question parce que quand, en fait, j'ai fait beaucoup de régimes dans ma vie, pour
Ouais,
perdre du
avant quand
poids.
même.
Ah oui, mais depuis petite en plus. Hein,
Petite.
oui, je me rappelle encore au collège. Alors, quand je vois des photos, je me dis, je suis ridicule d'avoir pensé ça. Parce que... Mais en fait, je n'étais vraiment pas bien dans ma peau. Que ce soit... En fait, je ne veux pas comparer avec d'autres femmes, parce qu'on se sent plus ou moins... Alors, je parle de forme, etc. Donc... Mais moi, je ne me sentais pas bien et j'avais l'impression qu'il fallait que je contrôle. Donc, j'avais des phases où j'allais faire des régimes, j'allais me priver de telle ou telle chose. Et en fait... Pour moi, je voyais pas ça comme un trouble du comportement alimentaire, parce que dans mon imaginaire, les TCA, c'était des extrêmes, anorexie, boulimie, hyperphagie. Donc je me disais, ben, je suis pas là-dedans. Et en fait, si j'avais des comportements qui n'étaient pas sains, je culpabilisais parce que j'avais mangé du chocolat. Et en fait, j'ai toujours eu un rapport qui était un peu délicat. Je pense qu'il y a aussi des remarques des gens. En fait, c'est souvent comme ça qu'on construit un
De
petit peu
ton
nos troubles.
entourage.
Alors que finalement, maintenant j'ai compris que les remarques des autres, c'est leur propre rapport à leur alimentation. C'est pas moi. Aujourd'hui, j'ai grandi par rapport à ça. Et donc, quand j'ai fait mes changements alimentaires, je me suis dit, je veux surtout pas que ce soit un régime. Je veux. Mon rêve, ce serait que j'ai une relation qui soit saine. Et d'ailleurs, il faudrait que je retrouve une des premières vidéos que j'ai fait sur mon compte, où j'ai dit, mon objectif, c'est retrouver une relation saine avec l'alimentation. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est bon. Et effectivement, ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, j'écoute mon corps sur ce dont il a envie en termes de gourmandise. Et
Ouais.
j'écoute mon corps sur ses limites. Par exemple, j'aime le chocolat, on peut aimer les glaces et tout. Mais il y a certaines limites parce qu'à un moment donné, le corps, il me dit, oh là, tu fais n'importe quoi, là, j'ai mal au ventre. Donc en fait, je trouve un équilibre entre ce que j'aime et ce que mon corps est capable de supporter par rapport à ma maladie et à mes objectifs.
Tu nous parlais de tes gourmandises, le chocolat, les glaces, tout ça. Ça fait partie des choses qui sont inflammatoires dans notre alimentation ou pas?
Donc en fait, alors c'est oui et non, parce qu'en fait l'inflammation, ça dépend quand même de chaque corps. Donc il y a des choses qui vont être plus ou moins inflammatoires que d'autres. Mais en gros, cette alimentation, il y a deux piliers. À la fois, ça va être d'identifier ce qui crée de l'inflammation. Donc ça, c'est vraiment un parcours personnel. On peut être accompagné avec un médecin fonctionnel. Donc fonctionnel, ça veut dire qu'il s'intéresse aux origines de la maladie. Donc voilà, je tape sur Doctolib, médecin fonctionnel. Je peux trouver. Ça peut être aussi avec un naturopathe, avec des professionnels de santé qui peuvent nous guider sur ça. Et ensuite, il faut aussi faire des recherches, hein. Il faut être curieux, il faut s'intéresser à ça. Et moi, j'essaie de faire gagner du temps aux gens en partageant ce qui peut fonctionner ou pas. Donc, ça va être d'identifier ce qui crée de l'inflammation et le réduire. Je dis bien réduire et pas bannir, parce que on est dans la vraie vie. Il y a des choses, on ne peut pas tout checker. Après, on bannit si vraiment on est allergique. Faut pas.
Avec des intolérances alimentaires.
Alors, intolérance, encore une fois, ça dépend de notre capacité. Par exemple, je ne sais pas, si tu es intolérante au gluten, mais que tu adores la pizza, soit tu te dis, j'en mange plus jamais et je trouve des alternatives, soit tu te dis, là, je sais que ce jour-là, je veux vraiment une pizza. Comment est-ce que je deal with, comment je gère ce moment-là? Donc là, il y a des solutions, hein, d'ailleurs, parce que j'ai des intolérances que je peux inclure dans mon alimentation. Et deuxième pilier, ça va être de rajouter. En fait, je rajoute énormément d'aliments que je ne connaissais pas avant. Des aliments simples, hein, je ne parle pas d'un truc qui est hyper compliqué et tout. C'est des choses qu'on sous-estime, en fait, dans les magasins, qui ne sont pas chers, etc.
Qu'on ne pense pas.
Oui, les herbes aromatiques, les épices, les légumes, les fruits. En fait, c'est varier l'alimentation. Donc aujourd'hui, ce qui est inflammatoire, pour faire simple, on va retrouver des catégories d'aliments. Donc je peux t'en citer quelques-uns, par exemple, et te donner des petits exemples. Donc on va retrouver déjà au niveau des huiles, il vaut mieux favoriser les huiles qui vont être riches en oméga-3, parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas assez. On a beaucoup trop d'oméga-6 dans notre alimentation. C'est pas mauvais, l'oméga-6. Hein. Mais quand on en a trop, c'est pas bon. Parce que ça participe, en fait, à la production de médiateurs pro-inflammatoires. Et les oméga-3, c'est l'inverse. Des médiateurs anti-inflammatoires. Et donc, aujourd'hui, notamment l'huile de tournesol qui est riche en oméga-6, qu'on retrouve partout, parce que c'est pas cher. Et c'est dans tous les produits transformés. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, je réduis ça, et je me tourne vers des huiles qui vont aider mon corps. Donc là, alors souvent on pense à l'huile d'olive. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'oméga-3 dans l'huile d'olive.
Okay, ouais.
C'est surtout des oméga-9. Ça, c'est quand même très bien. Mais il y a des huiles qui sont riches en oméga-3, notamment l'huile de lin. Et un petit goût. Hein, donc en vinaigrette, il faut donner pas juste comme ça. C'est ça. On va retrouver l'huile de caméline, par exemple. L'huile de noix, l'huile de chia, par exemple, dans les petits poissons. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire. On peut faire des changements dans notre quotidien. Ensuite, les produits laitiers, pour faire simple, ça va être par rapport à notre capacité de digestion, de tolérance et d'allergie. Donc, on va retrouver le lactose et on va retrouver aussi les protéines de lait. Donc, pour faire simple, les protéines de lait qu'on va généralement mieux digérer.
Les protéines de lait, de la caséine.
Oui, c'est ça, la caséine. Il y a deux types. Et celles qui, à base de lait de brebis et de chèvre, sont plus digestes. Donc, si on adore le fromage, il vaut mieux se tourner vers des fromages à base de lait de brebis ou de chèvre, par exemple.
En yaourt aussi.
Ensuite, ce qui est assez intéressant, ça va être aussi les fromages qui sont affinés, parce qu'il y a moins de lactose. Il a été consommé, en fait. Donc ça, c'est plus intéressant. Ensuite, on va retrouver, par exemple, la catégorie au niveau des viandes, pour ceux qui en consomment. Donc là, il vaut mieux consommer tout ce qui va être bio ou bleu blanc cœur. Donc en fait, c'est qui permet... En fait, cette certification permet de dire que les animaux ont été nourris avec des grains, donc plus d'oméga-3, Il y a toute une charte sur bleu blanc cœur. Mais à choisir, il vaut mieux prendre de la qualité en mangeant un peu moins et de la qualité et limiter un petit peu plus tout ce qui est charcuterie avec justement des acides gras saturés.
C'est ça. C'est tout ce qui est acides gras saturés. Oméga 6, du coup, on réduit un peu les apports.
Oui.
Tu as parlé de la viande rouge en excès. Ouais, le sucre.
Le sucre et les édulcorants.
Le sucre raffiné, du coup.
Ouais. Et après, le sucre en général, c'est-à-dire que, pareil, moi, le sucre, je ne le bannis pas, j'aime le sucre, mais je vais plutôt me tourner vers des sucres plus nutritifs, avec des fibres, avec un indice glycémique plus bas. Donc là, on peut retrouver notamment le sirop de datte, on a du sirop d'érable, on va retrouver du yacon, comment on prononce. Après, il y a un petit goût, les gens n'aiment pas trop, mais il faut... Moi, j'aime bien, mais il faut essayer. Et les édulcorants, c'est pas très bon pour le microbiote. Donc, moi, j'en consomme pas. Et après, tout ce qui est alcool, tabac Et aujourd'hui, moi, je bois plus d'alcool. Je le remplace par du kombucha, par exemple, ou du kéfir, qui est riche en probiotiques. Et si je bois de l'alcool, j'ai toujours un verre d'eau maintenant à côté et je bois doucement.
En
C'est
mangeant.
ça. Et en fait, ce qui est hyper important, là, j'ai cité par exemple des catégories, des aliments et tout, mais c'est comprendre, en fait, ils font quoi dans le corps?
Ouais.
C'est ça. Et là, globalement, les problèmes inflammatoires, en fait, ils viennent soit d'un intestin qui est abîmé, on parle d'intestin poreux, leaky gut en anglais. Et ça, c'est le cas. On part du principe quand on a une maladie auto-immune chronique.
Souvent, c'est combiné,
Oui, en
voire
fait,
ça vient de
c'est
là.
ça. Il est abîmé, il a des trous. Et donc là, justement, ces aliments-là inflammatoires, notamment le gluten, par exemple, participent à faire des trous. Et donc quand il y a des trous, eh ben, il y a tout qui va dans le corps, le bon, le mauvais,
Les additifs, les
les
conservateurs, le
toxines, les
sucre.
pathogènes, en fait. Et là, le corps... En fait, le système immunitaire dit, oh, c'est quoi? J'aime bien un petit peu avoir une image de ça. Il dit, attends, c'est quoi tout ce truc qui rentre dans mon corps?
Ouais.
Je jette tout. Donc déjà, il se protège, en fait, donc il est constamment stimulé et on n'absorbe plus rien. Donc en fait, on se retrouve en carence. Donc on a beau bien manger, s'il est abîmé,
Ouais.
là, ça aide pas trop. Donc c'est un processus pour réparer l'intestin. Et ensuite, on va aussi retrouver, donc tu mentionnais tout à l'heure la dysbiose. Donc pour faire simple, c'est que au niveau du microbiote, on va avoir en fait un déséquilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises. Et donc ça peut arriver par une infection bactérienne, virale, des médicaments en excès, comme j'ai pu avoir par exemple. Et tout simplement une hygiène de vie qui fait que le corps il peut plus trop supporter. Donc ça, c'est vraiment ces deux gros éléments qui vont entretenir l'inflammation et avoir des répercussions sur notre santé.
Donc c'est toutes ces personnes-là qui soupçonnent du coup des déséquilibres, qui soupçonnent des sensibilités dans leur corps, qui devraient en fait tester l'alimentation
Tout le monde.
anti-inflammatoire.
En vrai, ce serait tout le monde, parce que même en prévention, et aujourd'hui, moi, je suis vraiment ambassadrice de cette alimentation parce qu'elle me plaît, je la trouve gourmande. Ça, c'était mon gros challenge, hein, de saliver devant chaque plat que je mange. Et d'ailleurs, c'est vraiment ma façon de partager mes recettes. J'ai envie que quand on voit, on se dit, ouais, je veux le manger ça. Et ça te fait du bien au corps.
Ouais.
Et en fait, donc, ce serait pour tout le monde, en prévention et pour aider. C'est pas juste ça qui va soigner une maladie. J'aime pas trop dire le mot soigner, mais en fait, mieux vivre avec une maladie. Des fois, il y a des personnes qui ont besoin de médicaments en plus, qui ont besoin de travailler tous les autres aspects de leur vie. Mais c'est un des éléments qui aide à mieux vivre. Donc, tout le monde devrait s'y mettre.
Tout à l'heure, on parlait du coup de tout ce qui serait potentiellement inflammatoire. On a fait la liste oméga 6, alcool, charcuterie, pratiquement un apéro, quoi. Est-ce que ça veut dire que l'alimentation anti-inflammatoire, ce serait aussi restrictif?
En fait, d'une certaine manière, oui, parce qu'on réduit des aliments. Et en fait, dans ce processus, c'est changer une habitude. C'est ça qui est important. Et changer une habitude, on ne peut pas tout enlever. Donc moi, je ne suis pas du tout pour tout changer dans sa vie du jour au lendemain. Et se dire, allez, à partir de maintenant, je mange plus de sucre, plus d'apéro. Et puis, oh,
Parce qu'on
si j'ai
n'a
un
pas les
apéro,
outils, on ne sait pas quoi
voilà,
faire.
c'est
Ouais.
ça. Après, c'est humain et c'est normal. Mais c'est plutôt d'y aller progressivement pour que, comment dire, l'envie, en fait, l'habitude change. Et par exemple, moi, le sucre, comme je t'ai dit, j'adorais ça, le sucre. Et ben aujourd'hui, vu que j'ai changé, par exemple, mon petit déjeuner, ben si, là, ça va faire plus d'un an hein, que je consomme différemment, si je mange un petit déjeuner sucré, ouais, bon, finalement, ça me fait plus autant vibrer
D'effet,
qu'avant.
ouais.
Donc là, j'ai changé mon habitude, mais ça a pris du temps. Et ça m'arrive de me remanger des petits déjeuners sucrés. Et c'est plus voir ça comme ça, l'alimentation. C'est de la transformer en s'écoutant.
Tout à l'heure, on a parlé des ingrédients, des choses qui pourraient être inflammatoires. Est-ce que maintenant on peut passer aux différentes familles d'ingrédients qu'on a en alternative dans l'alimentation, en donnant un petit fun fact sur chacune des familles? Par quoi tu veux commencer?
Alors, justement, ça c'est trop bien parce qu'on vient rajouter plein de choses. J'ai jamais autant mangé
Ouais.
de choses différentes et diversifiées que depuis que j'ai changé mon alimentation. Ça c'est
C'est clair et net.
C'est clair et net, vraiment. Avant, je mangeais tout le temps la même chose et c'était triste ouais. quand je y repense. Et aujourd'hui, je suis vraiment épanouie. Donc, déjà, une base, c'est les fibres. Mm-hmm. Donc, les fibres, on va les retrouver dans déjà beaucoup de légumes, bien sûr. Et aujourd'hui, quand je mange des légumes, notamment le céleri, c'est une pépite, mm-hmm. c'est riche en fibres, c'est minéralisant, c'est digeste. Franchement, c'est parfait. Avant, je n'aimais pas le céleri. Mais aujourd'hui, vu que je sais que ça me fait du bien, après, je le cuisine et tout, je fais des petites recettes avec aussi.
Des recettes que
ah ouais. Mais j'adore.
Tu peux utiliser pour pouvoir dire à ton cerveau que tu aimes le céleri.
Oui, complètement. Vraiment. Et après, si on n'aime pas le céleri, on en trouve d'autres. Donc, en plus, moi, j'aime bien suivre selon les saisons. Mm-hmm. Et je me dis, bah, s'il y a ce légume qui est à cette saison-là, c'est pas pour rien. Mm-hmm. Donc, je vais le consommer. Donc, ça prend du temps. Et c'est pour ça que j'aime bien faire gagner du temps aux gens en leur partageant bah, directement là sur l'été, ça va plus être ce type de légumes ou comment les consommer.
Mmh. Du coup, l'été en fibres
Alors la courgette, pépite, très digeste. Ça, c'est... J'en mange énormément.
Ok.
Et ensuite, tout ce qui va être les solanacées. Donc là, c'est la famille des poivrons, tomates et aubergines. Là, il y a une petite astuce, il faut que je vous le dise, parce que souvent, on ne le digère pas bien. Parce que dans la peau et dans les grains, on va retrouver des lectines. C'est une protéine, en fait, que la plante va créer pour...
Dans les tomates et les poivrons.
Oui, et aubergines. En fait, pour protéger le légume ou le fruit, parce que c'est un petit poison. Donc, quand un insecte, un oiseau va manger, en fait, ça va lui faire du mal. Sauf que ça nous fait du mal à nous aussi. Donc, l'astuce, ça va être de l'épeler. Donc, poivrons, on les pèle. On enlève, bien sûr, les pépins. Les tomates aussi. Donc, les tomates, je les plonge dans l'eau bouillante, même pas une minute, la peau s'enlève. J'enlève au max ce que je peux, les petits grains. Et les aubergines aussi, je le cuis. Et là, mais j'ai aucun problème. Aucun problème. Et avant, j'avais vraiment très mal au ventre à cause de ça. Donc ça, c'est des manières de consommer différentes. Donc les fibres, ça nourrit le microbiote. Donc il faut y penser. Chaque repas, si on peut en avoir. Et c'est pour ça d'ailleurs que le matin, pour le cake, je mets toujours des légumes pour en avoir. On va retrouver aussi toute la famille des... Alors, les protéines. Ça, c'est pas parce qu'on n'est pas un grand sportif qu'on ne doit pas manger des protéines. Il faut qu'on en consomme. Nous, les femmes, on en a besoin. Surtout, donc déjà, avec, quand on a des maladies, qu'on vient puiser notre énergie, quand on a nos règles et quand on vieillit. Il nous faut plus de protéines. Et
c'est
moi,
bien
j'en
aussi
avais
pour
pas...
le système hormonal, les protéines.
Pour tout, pour le cerveau, vraiment, c'est les acides aminés qu'ils contiennent, et pas que pour de la viande, en fait. Hein. Au niveau animal, on peut en retrouver aussi de manière végétale. Il faut qu'on en ait suffisamment. Moi, j'en avais pas assez, et je suis toujours en train de... Alors oui, forcément, sur ça, j'essaie voilà, d'en apporter suffisamment. Donc, des fois, dans les cakes ou les goûters, par exemple, je vais rajouter un petit peu de protéines en poudre vegan, qui sont pareilles, sans gluten, donc super digestes. Ça m'aide à compléter mes apports et je me sens bien. J'ai l'énergie qu'il faut. Il faudrait 15 grammes de protéines au petit déjeuner par personne.
Donc, 15 grammes pour le petit déj.
C'est ça.
Wow.
Et donc, quand je fais mon cake, j'ai calculé de sorte à ce qu'une part fasse 15 grammes.
Ça fasse 15 grammes. Parfait.
Ça, je suis contente. Et ensuite, ça, hyper important, les antioxydants. Super, super important dans les maladies auto-immunes parce qu'en gros, quand on a donc le corps qui nous attaque, on est sous stress. Le corps est stressé, donc il va puiser les antioxydants, toutes nos réserves, notamment le sélénium. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, on a des carences en sélénium pour se protéger. Et à un moment donné, il n'y a plus. Et là, ça empire. Donc moi, ça va être de consommer un maximum d'antioxydants. Et ça tombe bien, l'été, on a tous les fruits rouges, toutes les baies. Ça, c'est une pépite. Et en plus, avec le soleil, la peau, elle est sous stress oxydatif, donc on en mange bien. Les
faut
noix du Brésil.
Faut peut-être s'en supplémenter aussi.
Oui.
En plus de
ça, effectivement. Donc, on va retrouver dans les suppléments, soit ce sont des complexes, on va en retrouver plusieurs. Ou des fois, ça peut être ciblé, comme le zinc, par exemple, ou le sélénium. Donc, le mieux, c'est de faire une analyse de sang avant. Et comme ça, on ne fait pas n'importe quoi.
Ouais.
Et on ajuste à là où on en a besoin. Donc moi, j'essaie de faire en sorte d'en avoir au max dans mon alimentation. Et là où ça peut manquer un peu, je vais en consommer en supplément, par exemple.
Sinon, tu snacks des noix du Brésil, tu disais.
C'est ça. Ah, ça, j'en ai toujours avec moi.
Ouais.
En voyage, ça, c'est une pépite. Surtout si elles sont grosses, une par jour.
Ça suffit.
Ça suffit. Alors, si vraiment elles sont grosses, sinon, il vaut mieux en prendre deux, trois. Ça dépend, en fait, comment elles sont. Mais ça fait partie de ma routine.
Et les légumineuses, est-ce que faut les préparer? Est-ce que c'est un peu plus inflammatoire? C'est compliqué à savoir.
En fait, c'est juste que ça peut être pas très bien digéré. Donc là, ça dépend de chacun. Et moi, j'ai une astuce pour ça. Parce que c'est dommage, parce qu'elles ont quand même des. Si on les enlève de notre alimentation, elles ont quand même beaucoup de bienfaits, que ce soit le fer, les protéines et tout ce qu'elles peuvent apporter et les fibres. Donc, moi, si je les mange telles quelles, ah
Ça
ben,
digère pas bien.
un festival, quoi. Genre, vraiment, je suis pas bien. Même les lentilles, tout ça. Donc, l'astuce, ça va être soit de les tremper si elles sont crues, on va dire. Donc, les tremper vraiment, des fois, jusqu'à 48 heures. Ça va être les faire germer. Ou bah, de les faire cuire suffisamment longtemps. Et par exemple, mon astuce pour les pois chiches, et ça c'est mes... Je fais une vidéo sur ça, ça a tout changé. En fait, je prends la boîte de pois chiches, je la rince bien, je la fais tremper dans un bac d'eau. Et en fait, avec les mains, je malaxe comme ça, sans les écraser. Et en fait, la peau qu'il y a
Se
au-dessus
défait,
se
ouais.
défait. Donc ça fait des petites méduses qui flottent. Il n'y a plus qu'à prendre un écumoire, on récupère tout. Et là, je digère super bien. Donc ça, c'est des petites astuces. Honnêtement, je n'en mange pas tous les 4 matins, mais pour bien digérer, c'est ce qu'il faut. Et ensuite, j'ai oublié de le mentionner, toutes les vitamines qu'on va retrouver notamment dans les herbes aromatiques. Il faut en mettre tout le temps. Persil, basilic, aneth, tout ce qu'on veut.
Non, mais les herbes aromatiques au supermarché, ça me déprime un petit peu parce qu'elles sont en plastique dans les supermarchés là. Il n'y
Oui.
en a pas
Puis
beaucoup.
elles sont, en fait, comme elles sont précoupées, elles perdent aussi. Après,
Ouais.
c'est mieux que rien, en vrai.
C'est peut-être mieux même parfois de les prendre en congelé.
Carrément.
C'est plus simple.
Si on a l'occasion d'en prendre. Donc, congelé. Et du coup, moi, j'ai un balcon, j'ai un appartement. Et je me suis mis donc des petites jardinières. Et donc, j'ai mis toutes mes herbes aromatiques. Comme ça, c'est frais directement. Je les consomme quand j'en ai besoin. Et les épices. Gingembre, tous les jours. Curcuma.
De l'Ayurveda, du
Ah ouais,
coup.
complètement. Même cannelle, j'aime beaucoup en mettre dans les plats, même salés. Les plats aussi sucrés. Et d'ailleurs, moi, je ne digère pas l'ail et l'oignon, qui sont anti-inflammatoires. Hein. Ça, ils sont géniaux, mais je ne peux pas. Il y a des FODMAP dedans. Donc, c'est des sucres qui fermentent. Donc, ça, je ne peux pas en manger. Même cuit, ça passe pas. Et donc, je remplace toujours l'ail par du gingembre. Et c'est
Ah oui, d'accord.
tellement bon.
Et côté lipides, tu mettras en avant les bons gras. Et si oui, bah c'est quoi les bons gras?
Alors, sur les bons gras, en fait, on va, bah, par rapport à ce ratio oméga-3, oméga-6, ça va être hyper important. Ensuite, c'est aussi la manière de le consommer. On n'est pas obligé de prendre que des huiles. On peut notamment prendre des amandes. Alors, moi, je préfère prendre les amandes blanchies, qui n'ont pas la petite peau. Parce que parfois, pareil, la petite peau n'est pas toujours très digeste.
Oui, parce que ça contient aussi
Oui.
des bons gras, on ne le sait pas, mais...
Ah oui, ça, il faut en consommer. Et d'ailleurs, l'astuce, quand je mange du sucre, par exemple, alors, dit comme ça, je ne mange pas un carré de sucre, hein, mais quand je mange un goûter, je fais toujours en sorte d'avoir du gras parce que ça va limiter le pic glycémique. Et ça, dans l'inflammation et dans la prise de poids, c'est super important à prendre en compte. Donc moi, j'ai fait quand même une analyse de sang sur ma glycémie, mais je fais toujours en sorte d'avoir du gras avec du sucre. Déjà pour que l'énergie soit plus durable
Ouais.
et éviter voilà, cette espèce de pic qui peut à terme faire de la résistance à l'insuline, qui peut enclencher du diabète plus tard aussi. Voilà, c'est faire attention à ça. Donc le gras, j'en consomme à chaque fois. Et dans les salades, donc là, je retrouve aussi l'huile de Nigel, qui est excellent. Et moi, ce que je prends, c'est les graines de Nigel. Tous les jours, je parsème mes plats avec. C'est très bon et c'est joli. Donc, le gras, il nous en faut. Et ensuite, en termes de cuisson, il faut faire attention. On ne peut pas faire cuire toutes les huiles.
Super forte comme
Voilà,
ça.
c'est ça. Donc, en cuisson, moi, en général, j'utilise soit du ghee. Je ne connaissais pas avant. Mais en fait, donc ça, c'est à base de lait, en fait, animal. Mais la manière de préparer fait qu'on n'a plus les caséines ni le lactose. Et c'est un gras qui peut supporter la chaleur. L'huile de coco aussi, de temps en temps, j'utilise. Ça a un petit goût, faut qu'on aime aussi.
Et sinon, les glucides, on en parle souvent comme des ennemis. dans l'alimentation, toi, t'en penses quoi?
Alors déjà, c'est pas un ennemi.
Ouais.
On enlève ce mot. Non, vraiment, c'est pas un ennemi. Moi, j'en consomme des glucides à peu près à tous mes repas. Déjà parce que je suis aussi du sport.
T'as besoin d'énergie.
J'ai besoin d'énergie. Mon cerveau travaille. Il a besoin d'énergie. Et ensuite, j'en consomme avec le temps, plus avec des indices glycémiques plus bas, modérés. Donc, par exemple, on va retrouver la patate douce, le quinoa, qui est excellent. D'ailleurs, petite anecdote, quand je suis partie en Bolivie, c'est un pays de centenaires, parce qu'ils consomment énormément de quinoa, qui est protéiné, en fait, qui a énormément de nutriments avec juste les grains. Donc, franchement, ça, c'est une pépite. Donc, quinoa, j'en consomme beaucoup. Riz basmati aussi. Et encore une fois, on met du gras dedans aussi. Pas non plus des tonnes, hein, mais on donne du goût, des épices et tout. Donc non, les glucides, il nous en faut. Et ensuite, il y a plein de farines. On a de la farine notamment de sorgho, farine de sarrasin, qui a un indice glycémique plus bas et qui est riche en protéines, et que je coupe parfois avec la farine de riz, par exemple. Voilà, je pense que c'est... Et ça, je donne aussi ces astuces-là sur mon compte pour aider, quoi, parce que souvent on est un peu perdu, quoi. Les rayons bio, il y a tellement de farine,
Ouais,
on ne sait pas quoi
on
prendre.
va y revenir. Il y a une chose
Oui.
qu'on n'a pas parlé. On boit quoi?
Alors, on boit déjà de l'eau. On boit beaucoup d'eau. Idéalement, en dehors des repas.
En
Ça,
dehors des repas?
ouais. En fait, ça, c'est surtout pour les personnes qui ont des problèmes de reflux et de digestion. Ce qui se passe, c'est que par exemple, moi, j'ai un estomac qui est un petit peu flemmard, ce qui fait que je ne produis pas beaucoup d'acidité. Et ce qui fait que quand je mange, mes aliments vont fermenter dans l'estomac, vont. Ça va. Aujourd'hui, ça va mieux parce que j'ai pris notamment du vinaigre de cidre en cure qui m'a aidée.
Ça veut dire quoi une cure pendant un certain temps?
Ouais, j'ai fait un mois. En fait, tous les matins, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre bio dans un demi-verre d'eau. C'est pas très bon qu'on le boit avec la paille. Hein. On se rince la bouche, on boit un petit coup pour se rincer l'œsophage. Et en fait, ça m'a aidée à booster la digestion, ce qui faisait que mes aliments fermentaient plus. Mon clapet se fermait correctement. Et en fait, au bout d'un mois, j'ai arrêté, ça s'est rééquilibré. Et aujourd'hui, ben, j'ai plus de reflux.
Tu l'as fait qu'une fois.
Je l'ai fait une fois en décembre. Et là, je pense que je le fais à peu près, il faudrait que je le fasse 2 fois par an. Et après, j'aide aussi en consommant du gingembre, curcuma, qui aide à stimuler la production de liquide gastrique. Donc en fait, voilà, des fois, l'acidité ne veut pas forcément dire qu'on a trop d'acidité. Des fois, c'est qu'on n'en a pas assez. Et du coup, l'estomac est fatigué. Donc, pour revenir sur l'eau qu'on boit, moi, j'essaie de ne pas boire des grosses quantités au moment du repas pour éviter de diluer et de ralentir la digestion. Donc, je bois vers 10 heures. À 16 heures, je fais toujours une tisane. Je bois bien entre. Et ensuite, au niveau des boissons, quand on est en apéro et tout, j'adore donc le kombucha, le kéfir. J'en fais moi-même actuellement. Et ensuite, on boit quand même ce qui nous fait du bien. Les jus, tout ce qui est jus de fruits.
C'est sucré.
Voilà, alors si on le fait maison, il vaut mieux avoir mangé avant quand même. Parce que si on a tout ce sucre qui arrive d'un coup alors qu'on n'a rien dans le ventre. Donc moi, les jus frais riches en vitamines, je les fais en général en milieu de matinée.
Et du coup, comment on intègre un programme d'alimentation anti-inflammatoire quand on va faire ses courses, quand on planifie ses repas, quand on essaie de s'organiser dans la semaine? C'est quoi la mentalité qu'il faut qu'on ait pour pouvoir faire justement ces petits pas?
T'as raison de dire ces petits pas, parce que c'est vraiment des petits pas. C'est pas tout d'un coup. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que dans mon placard, j'ai le choix. J'ai vraiment de tout. Ce qui fait que des fois, quand j'ai juste acheté du frais, je sais que j'ai toujours quelque chose à la maison. Ça me vide un petit peu l'esprit. J'aime beaucoup le batch cooking, donc comme les cakes. Pareil, le goûter. Je fais souvent des marbrés, par exemple, avec du chocolat, avec dedans. Ça peut même être des gâteaux avec des légumes cachés, avec la courgette. Ça se sent pas du tout et c'est très bon. Et pareil, je coupe mes parts, j'ai tout au congélateur
Ou des barres
ou des barres.
que vous verrez peut-être sur notre compte Instagram.
Oui, ou des barres qui sont excellentes d'ailleurs, que je conserve du coup au frigo. Et dès que j'ai faim, hop, c'est prêt. Donc c'est pour ça que je conçois que les personnes qui ont des vies de famille, qui ont un travail qui avaient des horaires compliqués et tout. Je pense que de préparer des choses comme ça à l'avance, ça soulage mentalement et ça évite de, bah, de faire n'importe quoi alors qu'on essaie d'aller mieux. Et ensuite, pour les courses, bah, le mieux, c'est quand même de faire des listes. Donc, des fois, j'essaie de faire de partager des listes pour que les personnes, ça, en tout cas, je partage ce que moi, j'achète par catégorie. Et comme ça, quand on va au magasin, hop, 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 on ne se prend pas trop la tête. Des petits bas comme ça. Et ensuite, j'ai toujours plein de légumes au frigo. Honnêtement, bon, c'est toujours souvent les mêmes, hein, mais j'ai toujours quelque chose. Et j'ai pas le syndrome du frigo vide, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ce truc de... Oh, après, ça arrive des soirs, j'ouvre mon frigo, je dis, ah, j'ai pas envie de manger ça. Et je vais cuisiner quelque chose, on va manger en ville. Et voilà, je m'adapte.
Moi, je suis toujours jalouse de vous en France. Vous avez Picard.
Vous n'avez pas Picard en Allemagne?
Ah, pas Picard en Allemagne.
Il n'y a pas
Et
d'équivalent.
non, pas du tout. Et ça change vraiment la vie parce que ça permet d'avoir des choses qui sont fraîches, qui sont même, voire des fois prédécoupées ou découpées, qu'on peut facilement faire des poêlées, qu'on peut facilement faire des bowls. Il suffit juste de rajouter des lentilles, il suffit juste de rajouter quelque chose à côté. Ça change tellement la vie.
Même les fruits. Par exemple, les framboises surgelées ou les myrtilles, etc., j'en ai toujours au congélateur. Et j'adore, par exemple, me faire par exemple, des pancakes. Donc ça, en général, je les fais en avance. Pareil, j'ai ma petite pile. Hop, et du coup, je rajoute ma dose de fruits dessus. Parce que souvent, quand on achète des fois les barquettes de fraises, ben,
Bah, c'est pas la
ça...
saison
Non, ou
aussi.
quand c'est la saison, ben, en fait, ça dure 3 jours, même pas au frigo. Donc, faut vite, vite manger. Et quand c'est au congélateur, bon, c'est Picard, du coup, c'est très pratique. Et ça, voilà, j'en ai aussi. Donc ça, c'est des petites astuces au quotidien que je mets en place personnellement.
Le plus dur, je pense, je me mets à la place des gens, c'est si, par exemple, moi je suis mère de famille et j'ai envie de faire des changements, mais tout le reste de ma famille sont pas trop dedans, comment on fait pour s'adapter?
Alors ça, alors, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai une grande famille. Et quand je mange avec eux, et même mon conjoint d'ailleurs s'y est mis, parce que lui d'ailleurs a des problèmes de peau, et ça l'a énormément aidé, tout ce qui va être eczéma et tout, l'alimentation a changé sa vie aussi. C'est en fait d'embarquer la famille et les faire manger de la même manière. C'est-à-dire que par exemple, quand moi je vais acheter des pâtes, alors par exemple les pâtes sans gluten, alors ça c'est un petit budget, soit on met tout le monde avec les pâtes sans gluten. Soit par exemple, ben, moi je fais ma petite dose de mon côté et puis eux ils mangent des pâtes avec
Avec la
du
sauce à
blé.
côté.
Voilà, soit on fait comme ça. Par exemple, pareil, là j'ai vu une maman, c'était trop mignon. Elle a fait le goûter, donc un gâteau au chocolat que j'avais partagé à ses enfants. Et en fait, elle leur a pas dit, mais dedans, du coup, il y a de la courgette, on a de la purée d'amande. C'est vraiment des ingrédients, quand on est enfant, on n'y pense pas du tout. Et les enfants, ils ont adoré, donc j'avais la photo avec les deux petites comme ça. Et en fait, elle dit, ben voilà, j'ai réussi à faire manger des légumes à mes enfants. Et plus tard, elle leur a dit, ah, devinez ce qu'il y a dedans. Et parce que si on leur dit dès le début qu'il y a de la courgette, je pense pas qu'ils vont aimer ça. Mais je trouve que c'est ludique, en fait, et de cuisiner avec la famille, de le faire ensemble, je
C'est
pense que
partagé.
c'est ça. Et par exemple, même moi, moi, je cuisine beaucoup à la maison, mais mon conjoint, pour des fois se répartir aussi le travail, je lui dis, ben voilà, il y a la recette là. C'est écrit, c'est visuel, bah tiens, tu peux la faire. Et du coup, il s'y met. Les gens sont contents, en fait, de faire participer les autres. Et en général, on est quand même bien vu. Là, par exemple, je vais partir en camping avec la famille. Ils sont tous au courant que je mange anti-inflammatoire. Et des fois, ils sont curieux, en fait. Ah, c'est quoi? Je peux essayer.
Ah oui.
Et quand je leur dis ça, ça va te faire du bien, tu vas voir. Ils sont trop contents. Ils sont là, ah oui, je vais en manger plein. Parce que je viens de faire l'apéro avant, je vais en manger plein.
Et tu fais quoi justement quand tu es en voyage là en camping ou à Berlin? Comment tu gères ton alimentation?
Ouais, alors honnêtement, c'est pas évident. Voilà, il y a une réalité aussi. Mais je pense que c'est bien d'être un peu confronté comme ça à des choses qui sortent de notre routine. Et donc, par exemple, là, ben, je devais manger en ville, dans les restaurants ou à commander. Donc déjà, je me dis, bah, je vais favoriser vraiment les légumes. Je sais que quand je suis en déplacement, on n'est pas souvent chez soi, tranquillou, dans le lit. Donc On va aider sa digestion, donc des fibres. Et donc là, ça va être me tourner vers des aliments. J'aime bien, par exemple, les pokéballs. On va retrouver du riz. Donc ça, pas de souci pour le gluten. Souvent des légumes. Il faut qu'il y ait ma dose aussi de protéines dedans. Ça peut être des œufs. Alors, les falafels, voilà, si on les digère bien. Vraiment, je me tourne vers ça. Donc ça, c'est ma solution. Donc, comme je disais, les légumes. Et par exemple, là, d'ailleurs, là, j'en ai fait une story. Souvent, on a envie de grignoter quand on est le soir à l'hôtel ou machin. Et donc là, je me suis acheté une barquette de myrtilles. J'adore ça, les myrtilles. Hop, à grignoter comme ça. Des amandes. Une petite boisson. Et en fait, voilà, je suis contente. Après, si je veux du chocolat, j'achète du chocolat. D'un moment, faut pas non plus.
Chocolat noir.
Alors voilà, le mieux, c'est 70%. Et j'adore ça. Plus jeune, j'aimais pas ça. Hein.
Ouais,
Je
non,
pense
pas du
qu'en
tout.
grandissant, on aime le chocolat noir. Mais voilà, et je mange ça et je suis très contente.
C'est bien de savoir ça, que tu arrives à retrouver ce qu'il te faut en voyage et aussi de pouvoir se faire confiance et de se dire je vais pouvoir faire les bons choix au bon moment.
Mais le meilleur choix, c'est quand même ce que le corps nous dit. Et à trouver un équilibre entre notre gourmandise, en tout cas ce qui nous fait du bien au cerveau et ce qui fait du bien au corps. C'est vraiment ce jeu-là qui est. Moi j'aime bien, hein, ça, je suis contente. Je dis, ah tiens, je vais manger ça, on verra si mon corps aime bien. Et puis quand il aime bien, je me dis, bah, ça, ok, je pourrais recommencer.
On va passer dans les sujets un petit peu touchy, c'est mes
Ok.
dernières questions. En préparant le podcast, du coup, j'ai deux choses qui me sont venues en tête. Et je me suis dit, avec ton expérience personnelle, le fait que tu aies une forte présence sur les réseaux sociaux, tu dois déjà avoir entendu ce genre de questionnement. Et du coup, tu vas pouvoir y répondre sans problème. L'autre jour, je suis tombée en fait sur un post qui disait en gros que l'alimentation anti-inflammatoire, c'était du bullshit. On retrouve l'alimentation anti-inflammatoire, encore un concept qui manque de pertinence scientifique, il est ni juste ni faux. Encore une fois, le marketing s'est emparé de la nutrition. Et plus loin, on lit, l'alimentation, à quelque chose près, devrait s'orienter autour du concept simple, brut, local et de saison. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors déjà, en fait, j'ai jamais reçu ce genre de message.
C'est vrai?
Ouais. Pourtant, comme tu dis, je suis très présente. Les gens sont tellement bienveillants dans les messages que je reçois parce que déjà, ça leur donne une piste. C'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça va fonctionner pour eux, mais ils disent, OK, il y a un moyen. Je vais essayer. C'est des gens qui sont motivés en général, qui ont envie en fait. Qui m'écrivent. Donc honnêtement, j'ai jamais reçu ce type de message. Plutôt, ah, c'est quoi ton mode de vie? Je suis curieux. Enfin, c'est des gens curieux en général. Et ensuite, sur la notion de bullshit ou comme c'est pas prouvé, c'est pas vrai. Ça, ben, pour le coup, je suis pas d'accord avec ça parce que en tout cas, ça a fonctionné pour moi. Mes anticorps ont aidé. Ça a eu énormément de bienfaits dans ma vie. Quand je vois que bah, ma maladie se calme, mes symptômes se calment, que je retrouve une relation qui est saine avec l'alimentation, je redécouvre les aliments, je les comprends. Voilà. je suis tellement plus heureuse qu'avant. Donc pour moi, ça a réellement eu. Ça a vraiment changé ma vie, honnêtement. Après, ça ne veut pas forcément dire. J'ai pas de garantir que toi, ce sera pareil, parce qu'en tous les cas, on est différentes. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Ça, c'est vraiment mon message. On essaye. Et encore une fois, par exemple, pour le gluten, pour ce qui crée de l'inflammation, il faut se donner du temps. Souvent, des fois, on essaie une fois, oui, mais ça marche pas ton truc. Et c'est plus longtemps. Peut-être que tu verras. Donc, non, pour moi, c'est hyper important. Et la notion avec brut, local et de saison, ça fait partie de ce que je m'inspire par rapport à l'alimentation paléo. Donc, bon, l'alimentation paléo, c'est quand même un concept très poussé sur une alimentation qui était là il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, il y a des nouveaux aliments. Donc, moi, justement, j'intègre aussi des aliments qui ne sont pas forcément locaux. C'est-à-dire qu'on peut retrouver, par exemple, les épices. Elles ont énormément de bienfaits. Donc, je les intègre. En fait, je ne suis pas dans une case enfermée, je fais rien d'autre. C'est je prends. On peut être anti-inflammatoire et être végane. On peut être anti-inflammatoire et manger sans aucun FODMAP. En fait, c'est vraiment adapté à tout le monde. Et ensuite, il y a des variantes selon ce qu'on est capable de digérer et ce qu'on est curieux de faire. Donc, pour moi, la meilleure réponse, c'est essaye. Et on en parlera.
Si ça te rassure, il y a des gens qui sont venus sur le plateau et qui n'avaient pas la même opinion non plus. Donc, c'est vraiment une histoire d'expérience personnelle, une histoire de tester ce qui nous convient
C'est ça.
ou pas. C'est ça, en tout cas, que... C'est ça, en tout cas, que je me note à moi-même.
Et c'est vrai que dans cette alimentation, encore une fois, c'est vraiment cibler l'inflammation pour mon système immunitaire par rapport à ma maladie. Mais ensuite, quelqu'un qui n'a pas de maladie auto-immune peut s'y intéresser aussi, encore une fois, en prévention et pour avoir une meilleure qualité de vie. Voilà, le principe, c'est d'être heureux. Et il y a une petite phrase de mon médecin fonctionnel que j'ai beaucoup aimée. Elle m'a dit, souvent, les gens se concentrent uniquement sur le résultat. L'objectif, c'est que dans 10 ans, je sois... Elle dit, le plus important, c'est tout le parcours extraordinaire qu'on va mettre en place
Ouais, le
pour mieux se
chemin.
comprendre, pour s'écouter et être heureuse. C'est le
C'est
but.
vrai que c'est ça le plus important. On continue d'ouvrir un peu le débat. Moi, je suis passée il n'y a pas très longtemps à la FNAC et j'ai acheté le livre de Johan Manon, Mon programme anti-inflammatoire. Je ne sais pas
Je
si
l'ai,
tu l'as
si je
lu.
l'ai.
Tu l'as lu?
Bah oui.
Et il y en a plein d'autres, en fait, des livres sur l'alimentation anti-inflammatoire. Il y a celui de Bimove, Julie Pradin, Sofoudi, pour citer seulement les gens que je connais. À ton avis, pourquoi il y a autant de livres ces dernières années? Et en plus, tu ajoutes le tien prochainement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce contexte?
Alors, je pense que déjà, parce que je les ai lus, ces livres, je suis très contente de voir que c'est cohérent. Déjà, on est tous d'accord. Ensuite, je pense que ben même il n'y en a peut-être pas assez. En fait, c'est très récent, hein, je vais pas dire ce concept, mais de s'intéresser aux inflammations, c'est assez récent. On en parle de plus en plus et encore, il y a beaucoup de professionnels qui n'en parlent pas assez. D'ailleurs, c'est pour ça que mon compte, hein, je veux en parler, je veux ouvrir la voie, et pas que la mienne, hein, pour tout le monde, parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a tout ce qui est cancer, il y a opération de la thyroïde, opération de l'endométriose. Il y a tellement d'histoires, et d'ailleurs, sur les gens qui me suivent, il y a plein de gens qui ont d'autres maladies que je connaissais même pas, polyarthrite rhumatoïde, arthrite, on va retrouver tous les problèmes de peau. Franchement,
Il y en a tellement.
il y en a tellement, et les gens m'écrivent et sont très contents de parler de leur histoire. Et ensuite, donc pour moi, il faut parler de ça et je suis super contente qu'on en parle de plus en plus et qu'on vulgarise, qu'on parle simplement. Et ensuite, sur la différence peut-être de ce que mon livre peut apporter, alors honnêtement, j'aime tous les livres. Après, moi, la touche personnelle, c'est que je mets vraiment une importance sur la gourmandise. C'est-à-dire que, en tout cas, je suis très contente avec la photographe culinaire que j'ai eue, c'est que. On est raccord, ça donne tellement envie de manger. Il y a peut-être des petites photos, je ne sais pas, on mettra. Ça a été, je dirais, c'est peut-être un truc qui change un peu. Voilà, je veux qu'on salive. Ensuite, je dirais que je me suis beaucoup inspirée de mes voyages. Moi, la cuisine du monde, j'adore ça. Cuisine asiatique, cuisine même du Canada, d'Amérique latine. Je me suis tellement inspirée de plein de pays. Et pour moi, c'est pour ça qu'il y a ma personnalité aussi qui respire dans ce livre. Et ensuite, il y a peut-être, et je pense que c'est le plus important, c'est que je suis directement concernée par des maladies. Et en fait, donc, les conseils que je vais donner, les astuces, c'est ce que j'applique à moi-même. Donc ça, c'est très personnel, en fait. Donc c'est ce qui fait peut-être la différence d'un livre à l'autre. Et ensuite, tout simplement, ça donne d'autres idées. Donc plus on veut d'idées de recettes, bah, plus on peut acheter de livres. Donc voilà, je rajoute ma petite pierre à l'édifice. Pour se sentir mieux.
Est-ce que tu as un conseil que tu donnerais aux gens qui veulent se lancer? C'est dur, hein?
C'est dur, hein? Non, vraiment, pour moi, le message principal sur mon compte, c'est d'être tolérant avec soi-même. On n'est pas parfait. Tout à l'heure, tu l'as mentionné, c'est pas notre faute. Même si on a fait des choses qui nous ont amené à avoir une maladie, c'est la vie qui veut ça sur notre chemin. On ne se bat pas contre la maladie, on ne se bat contre personne. C'est, à mon sens, contre-productif parce que comme on a le système immunitaire, donc des petits soldats, en fait, moi j'imagine ça comme ça, plein de petits soldats qui sont fabriqués et qui sont en mode « Ok, on est attaqué », et qui se retournent contre nous. Si en plus je me dis « Ok, je vais me battre contre ma maladie », je suis en train de dire à mon cerveau Il faut se battre, il faut se battre, ok. On renforce en fait ce truc-là de il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, mon conseil, c'est l'acceptation, ça prend du temps. Moi, ça a pris 1 an et demi. C'est se dire, voilà, j'ai cette maladie, ou ces maladies, parce que souvent, ça va en combo hein, ou en trio. Elle est avec moi et je vais l'écouter. L'idée, c'est de l'endormir quand même, hein, quand même, hein, on veut calmer les symptômes, mais on va y arriver, on est ensemble.
Et pour les gens, du coup, qui nous ont écoutés jusqu'au bout,
Oui.
comment on continue à t'écouter?
Et bien, si jamais tu as apprécié ce podcast, on peut me retrouver donc sur mes réseaux sociaux, donc Élise Gilmore, sur Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. J'ai aussi un site internet pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux et qui aimeraient avoir plus d'informations ou même commander le livre, par exemple. Il y aura tous les liens, j'imagine, en description. Donc voilà, merci beaucoup et puis bienvenue dans la famille. Si jamais vous êtes concerné ou que vous avez envie
En
de
tout
vous
cas, je
sentir
me
mieux.
sens accueillie. Et si vous voulez continuer à m'écouter, moi,
Oui.
avec le podcast Healthwise, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire, même des questions. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous avec Sun Natural.
Ben Noémie, je voulais déjà vraiment te remercier pour donner la parole aux femmes et aux hommes qui ont plein de sujets ben finalement qui concernent tout le monde. On casse les tabous ici. Je suis très contente d'être sur cette plateforme. Et merci aussi à Sunday Natural hein, qui m'a invitée, avec qui je travaille aussi et dont je suis très contente.
Ben en tout cas,
Et ma
ça fait
communauté aussi.
plaisir. Ça nous fait plaisir d'avoir des gens qui sont aussi intéressés par la santé et qui ont à cœur de partager leur parcours et leur expérience.
Il ne faut pas hésiter si jamais il y a des témoignages, des questions ou l'envie tout simplement de partager votre point de vue.
Ouais.
Je serais très curieuse de lire les commentaires.
Petite question bonus.
Oui.
Toi, tu prends quoi comme complément alimentaire?
Ah, en complément alimentaire, je l'ai fait rapidement. J'ai fait par phase pour réparer mon intestin. Donc la glutamine m'a beaucoup aidée. Les enzymes digestives, hein, parce que l'estomac est un petit peu fatigué, donc voilà, je l'aide à mieux digérer, ça a changé ma vie. En complément de fond pour l'immunité, oméga-3, même si j'essaie d'en consommer de manière naturelle, il nous en faut, vitamine D, donc les deux, je les conserve au frigo.
Surtout l'été.
Oui, c'est ça. Et ensuite, on va retrouver, alors j'ai fait des phases pour les cheveux,
OK.
parfois. Pour les cheveux et pour le SPM notamment. Ça m'aide selon les phases. Et je dirais qu'il y a le magnésium. Et ça, par contre, ça fonctionne si je le prends le soir. Si je le prends le matin, je sais pas pourquoi, je suis KO le lendemain.
Ah bon?
Ouais, ça fait un effet. En fait, comme ça, le magnésium est là pour calmer, en fait, nous soulager. Je pense que moi, ça marche très très bien. Et donc, je me le prends en fait plutôt le soir et ça a un impact sur mon sommeil le lendemain en fait. Donc pareil, il faut écouter son corps et comment il réagit. Donc voilà globalement ce que je prends.
Bon, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Et là, en plus, t'as goûté les petites drops.
Oui, ça c'est très bon, c'est au collagène. D'ailleurs, il faudrait que je m'y mette un peu plus au collagène. Et donc là, framboise et
Yes.
chine.
Chin. À la prochaine.